Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Mosaïque. Et il y a autour de cette table
Chantal Matelet
pour les catholiques, Jean Botvinnik pour les juifs, Catherine Bianchi pour les protestants, Mimoun Enbati pour les musulmans. Eh bien, il se trouve que au moment où nous enregistrons, c'était la fin du Ramadan il y a quelques jours. Donc, Mimoun, vous nous parlez du Ramadan et surtout de la fin du Ramadan.
Oh, ben, la fin du Ramadan, on a fêté la fin du Ramadan, c'était mardi. Le dernier jour du Ramadan, c'était lundi soir, le 29e jour du Ramadan. Et comme vous le savez, le mois lunaire est composé de 29 ou de 30 jours.
Donc là, 2 ou 3 juin.
Voilà. Et donc le mardi 4 juin, nous avons fêté la fin du jeûne de ce mois du Ramadan. En se rendant le matin à la mosquée pour y faire une prière. Ou d'ailleurs, la tradition veut que cette prière se fasse en dehors des lieux de culte. Normalement, la tradition voulait que tout le monde puisse y assister, musulmans et non musulmans. Et même des femmes indisposées qui puissent y assister. Car c'est un moment de réconciliation. C'est le moment où on a jeûné tout le mois. Là, on doit pardonner à son voisin ou à un membre de sa famille avec qui on s'est fâché. C'est un moment de réconciliation. Mais
Donc il n'y a plus du tout d'interdit, tout le monde peut y participer.
Absolument, tout le monde. Tout le monde.
Et alors, hommes et femmes.
La rencontre, le rassemblement a lieu où?
Alors normalement ça se fait en France, il y a beaucoup de villes qui le font dans des gymnases.
Ah oui.
Voilà. Ils réservent des gymnases et les gens viennent, comme ce n'est pas un lieu sacré, c'est un lieu où tout le monde peut se réunir et tout le monde peut se retrouver et tout le monde peut se réconcilier. En tout cas, le but, il est là.
Voilà. Et alors, par exemple, vous l'avez fait entre des mosquées entre elles?
Actuellement, à Dreux, c'est chaque mosquée qui organise...
La rupture du jeûne.
La prière de la rupture du jeûne.
Oui.
Et chaque mosquée organise en fonction de sa grandeur, parce que bon, il y a du monde ce jour-là.
Ouais.
Et des fois, ils sont un peu débordés, et donc ils s'étalent un peu sur les parkings. Mais ensuite, il y a la prière, qui dure à peu près une demi-heure. Et là, on se retrouve autour d'un café, d'un thé, de pâtisserie. Toujours au sein de la mosquée. Hein. Et oui.
Je veux savoir, est-ce que la prière, c'est une prière spécifique à cette
journée? Oui, c'est spécifique. Alors, je vais vous prendre l'exemple de la prière hebdomadaire du vendredi.
Oui.
Normalement, la prière du vendredi, l'imam fait le prêche.
Oui.
Et ensuite, on fait la prière, que là, c'est le contraire. On fait la prière et il y a le prêche qui suit. Voilà.
Mais la prière pour le Ramadan.
Oui, pour la fin du Ramadan, pour la fin du jeûne du Ramadan.
Alors c'est une prière qui exprime une gratitude vis-à-vis de Dieu.
Tout à fait. Un rappel des obligations des uns et des autres envers surtout les parents, surtout les liens familiales qu'il faut resserrer. Et on a jeûné pendant tout le mois, on s'est privé de manger des aliments du lever au coucher de soleil, des aliments qui ne sont pas interdits. Donc on s'est éprouvé physiquement et même psychologiquement.
Oui.
Non, c'est pour s'entraîner pour toute l'année. Toutes les épreuves qu'on va rencontrer dans l'année, on doit pouvoir les surmonter. Et donc, les querelles familiales ou de voisinage qu'on doit mettre derrière soi et voir de l'avant.
Donc un temps de prière,
un temps de prière et un temps de rassemblement. Enfin, ensuite, ça se passe en famille. On se retrouve dans nos familles après le passage à la mosquée.
Avec un repas de fête, un repas partagé avec d'autres.
Tout à fait, avec les voisins et la famille.
Les voisins et la famille.
Oui. Et normalement, avant la prière, le musulman est tenu de s'acquitter d'une aumône pour valider son jeûne. Et l'aumône correspond à un repas, le coût d'un repas. Et cette année, ça s'est élevé à 7 euros, minimum. Les personnes qui sont un peu plus généreuses peuvent donner 10 ou 15 ou voire plus. Mais c'est une obligation, ça. Sinon, votre jeûne n'est pas valide.
Et ça se fait dans le cadre de la mosquée?
Alors, soit on donne à la mosquée qui redistribue ensuite aux nécessiteux, soit on donne à des associations qui s'en occupent. Mais ça, il ne faut pas attendre le jour de la fête pour le donner. Parce qu'il faut qu'ils organisent les mosquées et les associations pour redistribuer.
Les bénéficiaires sont présents.
Voilà.
Donc un temps important, un temps à la fois de solidarité entre les personnes, de prière et en même temps un temps pour Dieu, bien sûr.
Tout à fait, absolument. C'est un rappel pour dire aux musulmans que la générosité, la solidarité, la compassion envers les orphelins, les nécessiteux est la priorité dans la foi musulmane.
Ça n'a lieu qu'une fois par an.
Oui.
C'est un mois, c'est le mois du Ramadan, oui. Qui s'appelle Ramadan.
Il n'y a qu'un seul mois de Ramadan. Et pourquoi ce mois-ci? C'est parce que c'est le mois durant lequel Gabriel a révélé le Coran au prophète.
Ce qui nous amène, parce que nous n'en avons pas parlé, à aussi des nouvelles à se donner concernant l'interreligieux. Je crois, Jean, vous aviez évoqué un pèlerinage assez exceptionnel à Djerba.
Oui, il n'est pas réellement exceptionnel puisqu'il a lieu tous les ans, mais cette année, il a été mieux honoré que d'habitude. Mais je voudrais revenir sur, effectivement, cette rencontre interreligieuse global qui me situe, moi aussi, parmi vous, dans notre rencontre. Au hasard de mes lectures, j'ai trouvé une citation de Renan, qui semble ainsi être un précurseur du dialogue interreligieux. Je cite, « Pour s'accommoder de l'existence légitime d'une autre religion, il ne faut pas croire absolument en la sienne propre, faute de quoi on ne pourra jamais cohabiter avec d'autres gens, d'autres cultures. Certes, il a fallu attendre 1948 à la conférence de Seelisberg en Suisse que la première rencontre ait lieu et posé les fondements interreligieux qui permet à l'Église catholique de se pencher sur ses racines juives, aboutissant à Vatican II. La relation avec l'islam est plus difficile, surtout depuis la montée de l'islamisme et de l'État islamique, qui a entraîné un exode de la présence chrétienne dans le monde moyen-oriental. Pour parler religion, il ne faut pas croire que seule la sienne existe et détient par-devers elle toute la vérité. Le dialogue interreligieux et l'exclusivisme religieux s'excluent mutuellement.
Alors c'est intéressant parce que, de fait, récemment, j'ai lu un livre « Hors de l'Église, point de salut » et cette formulation était à l'origine, à destination des chrétiens qui, disons, se laissaient, au moment de l'Empire, sortaient du christianisme. Et hors de l'Église, point de salut, c'était véritablement à destination des chrétiens pour eux-mêmes. Et ensuite, il y a eu, de façon un peu abusive, cette extension, hors de l'Église, point de salut, et donc après, c'est devenu une formulation assez excluante. Mais je crois que c'est assez intéressant de savoir qu'à l'origine, c'était les chrétiens entre eux qui disaient pas de salut vis-à-vis de ceux qui sortent de l'Église, de l'abside donc. Et c'était au IIIe siècle, au moment des persécutions, enfin c'était dans un contexte particulier. Alors qu'effectivement, l'utilisation après a permis aux uns et aux autres d'exclure les copains.
D'exclure, et au lieu d'avoir des religions de paix, d'avoir des religions de guerre.
Voilà, et d'avoir ce...
Eh bien, voici un bon exemple que le dialogue est possible avec l'islam. En Tunisie, le 23 et 24 mai, s'est déroulé le pèlerinage annuel à la synagogue de la Griba dans l'île de Djerba. Ce lieu de prière est aussi vénéré par les musulmans. Il attirait jusqu'à 8000 fidèles pèlerins jusqu'à l'attentat de 2002. Il y a eu dizaines de morts. Oui. Cette année, plus de 5000 personnes sont venues et comme c'était pendant Ramadan, une rupture de jeûne collective a été organisée à la Griba en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahid, avec des ministres, avec des ambassadeurs et des pèlerins juifs, dont 600 qui venaient d'Israël. Et de même, il y a quelques jours, c'est-à-dire début juin, eh bien, vient de s'ouvrir aussi à Djerba la première école d'enseignement d'études juives pour les filles, ce qui en fait une première dans les mondes arabes actuellement.
Eh bien, voilà, dans un monde musulman.
La Tunisie est un modèle à suivre. C'est
la relation interreligieuse et le respect interreligieux est donné par ce qu'on a. C'est possible si effectivement on n'exclut pas l'autre.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des voyages du pape qui, dans la même lignée, se sont faits dans des pays musulmans récemment. Mais il y a aussi, vis-à-vis des juifs, un texte récent du pape qui propose aux chrétiens d'interpréter la Bible en tenant compte de façon plus importante de la tradition juive et de ne pas la soumettre à l'exclusion, puisque oui, ultérieurement, il y avait plutôt les perfides juifs.
Et oui, là, à une idée est... préconçue.
Oui. Et donc là, il y a quand même aussi, de la part du pape, cette ouverture. Donc finalement, c'est bien parce qu'on ne se sent pas tout seul. On perçoit oui, que cette ouverture des uns vers les autres est importante et que, bon, on met l'accent quelquefois sur cette islamophobie, ou bien cet antisémitisme, ou bien ces églises chrétiennes que l'on fait exploser, notamment les églises coptes, par exemple, en Égypte. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, des signes d'ouverture, et notamment en Allemagne, lorsque un homme politique s'est aventuré à dire bien pour éviter l'antisémitisme, bien, chers amis juifs, ne portez pas la kippa, et au contraire, tout un mouvement,
une réaction immédiate,
disant, eh bien, on va la porter avec les Juifs. Donc là, je crois qu'il y a aussi quelques signes d'espoir.
Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a appelé, si je me rappelle bien, les Apaches pendant la guerre, qui se sont cousus une étoile juive pour montrer qu'ils étaient solidaires et qu'ils se sont fait arrêter et mis en prison.
Ils appelaient ça les Apaches.
Ils ont appelé les Apaches.
En référence aux Indiens d'Amérique ou...
C'était des jeunes, on pourrait dire actuellement, enfin, qui sortaient de Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Mais de risquer la chose, c'était...
Mais aussi la famille royale des Pays-Bas et un certain nombre de Hollandais dans ce pays qui ont aussi eu cette attitude. Donc je crois que ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens courageux qui se disent, eh bien... Si on prend des mesures contre le juif, eh bien bientôt on les prendra aussi contre chacun, quoi. Finalement, l'intolérance et l'exclusivisme aboutissent à cette haine de l'autre et ça paraît bien mauvais. Alors justement, ce qui nous ouvre vers une autre période qui va être fêtée dans nos différentes religions juives et chrétiennes, c'est la fête de Pentecôte. Alors pour la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder cette question de la Pentecôte.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors, la Pentecôte chez les Juifs, c'est fêté, chez les chrétiens, c'est fêté, chez les protestants aussi. Voilà. Alors, parlons de la Pentecôte chez les Juifs, puisque c'est...
Eh bien, allons-y.
Allons-y, parlons de la Pentecôte.
50 jours après Pessah Roupak a lieu la fête de Shavuot. Et Shavuot est le pluriel du mot Shavua, et le mot Shavua veut dire semaine. Et ce mot semaine, Shavua, est dérivé du nombre Shiva, qui veut dire 7. Donc ça correspond, 7, 7.
Cette semaine, 49, voilà.
Et donc c'est une des trois fêtes de pèlerinage à l'époque du Temple de Jérusalem, qui était liée à l'agriculture, avec Pâques, Shavuot, donc la fête des semaines, et Sukkot, qui était la fête des cabanes. Et ces trois fêtes sont liées par les moissons. On moissonnait déjà l'orge à Pâques, le blé à la Pentecôte et la vigne à Sukkot. C'était l'occasion d'amener les prémices des récoltes au temple, c'est-à-dire que les premiers fruits obtenus par l'agriculture devaient être amenés au temple, être donnés en fait aux prêtres, et sinon
offert
on ne pouvait
pas... sacrifice à Dieu.
Oui, sacrifice
une petite quantité
pour
oui.
Dieu, mais aussi pour nourrir les prêtres et oui. Les lévites. Et si on ne le faisait pas, eh bien, on ne pouvait pas manger sa récolte. On ne pouvait pas la commercialiser ni la manger.
Mais ils n'étaient pas bénis.
Ils étaient
les Ils étaient bénis, ces récoltes.
Ils
étaient apportés comment?
C'était amené en sacrifice, offert en sacrifice pour le temple. Alors la quantité de produits qui était amenée, un petit peu comme l'aumône, était fixée par une mesure qui s'appelait l'homère, qui était équivalent à une gerbe. Bon, donc on amenait une gerbe et apparemment à l'époque, les paysans se réunissaient dans une grande ville et puis ils donnaient leur aumône, enfin leur gerbe, leur homère à des gens qui descendaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils étaient accueillis, une grande partie des paysans du pays, par les Cohen avec des grands renforts de musique. Donc c'était des fêtes très 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 joyeuses. Les origines de la fête se trouvent dans les livres de la Torah, que ce soit dans l'Exode, dans les Nombres. Et il est indiqué que cette fête de Shavuot est reliée essentiellement à l'agriculture. Il faut dire que quand ils arrivaient aussi à Jérusalem, eh bien, il y avait une surpopulation très très importante, ce qui fait que c'était aussi tout bénéfice commercial pour les hôtels, pour les loueurs de chambres. Mais naturellement, ce jour de fête... Donc c'était un jour sacré, il était chômé comme le Shabbat, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas travailler, et l'interdiction de travailler à Shabbat ou dans les jours de fête doit permettre à la famille, aux gens, de penser à Dieu entièrement à Dieu, et non pas être troublé par la nécessité de manger, de faire à manger, etc. La nourriture doit être faite auparavant. Mais après la destruction du deuxième temple en 70 par les Romains et la perte d'autonomie du peuple juif sur sa terre, les dirigeants religieux ils pouvaient plus uniquement se baser sur la dîme, les prémices. Et donc, ils ont rajouté une autre raison à cette fête. Et ils ont remarqué que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée au Sinaï, ils s'étaient déroulés 44 jours. Et que 6 jours plus tard, eut lieu la théophanie, donc la révélation. 44 et 6, ça faisait 50, et on retombait sur la date prévue pour la fête des prémices, pour la fête
de
la Pentecôte. Elle est donc maintenant appelée la fête du don de la Torah, et en particulier ce jour-là, fut énoncée les 10 paroles, parce qu'en hébreu, ça s'appelle 10 paroles, c'est traduit par les 10 commandements, ou encore, voilà une différence de traduction. Ou encore décalogue, donc c'est les dix paroles. Et dont la première parole rappelle que c'est l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors c'est très important parce que le peuple juif n'est pas né sur la terre de la promesse, il vient à partir et en sortant de l'Égypte. S'il devient libre, il pourra faire comme les autres avec sa propre idolâtrie et en être de nouveau esclave. Le don de la loi lui permet de rompre vraiment avec l'Égypte et de devenir libre au service de Dieu, comme lorsqu'on coupe le cordon ombilical, avec toujours le rappel d'avoir été étranger en Égypte, c'est-à-dire idolâtre, et de devoir pour cela aimer et respecter son prochain et l'étranger. La lecture liturgique comporte donc ce passage des 10 commandements, auquel on rajoute la lecture du livre de Ruth. Ruth est très intéressante pour
le judaïsme et le christianisme,
parce que c'est l'arrière-bisaïeul de David, et qui, au moment de la moisson, a vu Boaz, elle a glané dans le champ de Boaz, et le Boaz qu'il a épousé est devenu l'arrière-bisaïeul de David.
Et, voilà
pour... et ça représente pour nous, la vie de Ruth représente le summum de la conversion, c'est-à-dire l'adoption de la loi juive et de venir d'un lieu païen, en quelque sorte.
Et comment est interprété le fait que Ruth était moabite, la moabite ?
Oui, tout à fait. Alors donc, les rabbins explorent le texte de manière très 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 fine. Il était interdit aux Hébreux d'avoir des liaisons avec les Moabites mâles, avec le Moabite et non pas avec la Moabite, ce qui fait que la Moabite qui était Ruth
pouvait être l'ancêtre du roi David,
pouvait obtenir la conversion et donc rentrer dans le peuple juif. Voilà le pourquoi il y avait un anathème sur les Moabites, mais les Moabites masculin.
Masculin.
Comme la Torah est comparée à du lait et du miel, donc ce jour-là de Shavuot, Dieu a dit les 10 paroles, et puis ensuite, avec l'intermédiaire de Moïse, il a complété toute la loi. Les repas de cette fête sont à base de laitage et de miel. Donc on mange des blinis éventuellement fourrés de fromage, et les synagogues sont décorées avec de la verdure, rappelant la moisson, donc toujours. Et peut-être aussi qu'en ce temps-là, on dit que le mont Sinaï était une montagne verdoyante.
Voilà. Alors, cette fête de la Pentecôte...
Et c'est pour ça que pour ces fêtes, moi j'ai vu au Québec, ils installent des cabanes avec des feuillages sur leur
balcon. Non, c'est Soukhot, c'est la fête des cabanes.
Sur leur balcon,
c'est au mois de septembre, ça.
C'est fabuleux, ça.
Oui, mais même ici, hein.
Ah bon? Oui, j'en ai jamais vu, moi, sur les balcons, moi.
Mais
il n'y a pas beaucoup de juifs.
Oui, d'accord.
Voilà.
France, ça ne s'arrête pas cadreux. Pentecôte, l'origine du mot Pentecôte.
Alors, l'origine du mot Pentecôte.
Oui, l'origine du mot Pentecôte, pourquoi on appelle ça Pentecôte?
50.
C'est 50. C'est 50, c'est les 50 jours.
50 jours.
D'accord. C'est les 50 jours.
Ah, ça veut dire 50.
Oui, ça veut dire...
50 jours après Pâques pour les chrétiens.
Shavuot, c'est les semaines. Entre Pâques et la fête des semaines, il y a 7 semaines, 7 fois 7, 49. Et la fête a lieu le lendemain du 49e d'accord. jour, donc la 50e. Et 50 en grec,
c'est du grec, hein,
Pentecôte. Et puis 7 fois 7, 7, c'est le nombre vraiment... Alors, 7 fois 7, parfait, c'est encore plus parfait, plus que parfait.
Et 7, oui, et 7, c'est le nombre de jours de la semaine.
Oui.
Et 28, 29, enfin pour le mois, hein, ça rentre aussi.
On est toujours dans cette symbolique numérique, aussi qui a beaucoup de relations avec le cosmos, mais aussi les fêtes religieuses. Alors, pour les chrétiens, la Pentecôte,
C'est...
Pour les catholiques.
Pour les catholiques, les chrétiens.
On fête d'abord l'Ascension. C'est Jésus qui part rejoindre le Père, qui monte au ciel. Et puis ensuite, parce que l'événement pascal, c'est mort, résurrection, Ascension et Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'annonce du Christ qui a dit « Je pars, mais je vous enverrai l'Esprit ». Donc c'est l'Esprit qui arrive le jour de la Pentecôte. Et on dit que là, jusqu'alors, ils étaient dans l'inquiétude de Saint-Pierre, Pierre et les autres.
Pierre
ici,
et les autres, dans
l'inquiétude, planqués, parce que dans l'inquiétude. Ouais. Et là, ils sortent et ils proclament « Oui, il est vraiment ressuscité ». Et voilà. Et on représente ça... L'esprit qui arrive, on le représente comme des petites flammes qui arrivent sur leur... Il y a un petit garçon un jour qui m'a dit « ça y est, c'est le jour où ils ont tous flambé ». Donc, mais c'est des images comme ça. Hein. Donc l'esprit, on le représente comme le souffle, l'esprit qui arrive, le souffle qui vous pousse, le feu qui vous embrasse, qui vous donne la force de...
La force d'annoncer et en même temps la force d'annoncer aux autres dans leur propre langue. C'est ça que j'ai trouvé intéressant.
Ah oui, ils parlaient chacun dans leur langue, c'est ça.
Voilà,
et ils se comprenaient.
Donc ça me paraît important. C'est que cette communication, elle se fait dans les textes de l'Évangile, elle se fait à chacun dans sa propre langue. Voilà. C'est-à-dire que...
on le message est traduit pour chacun.
Voilà. On ne ramène pas l'autre à soi, mais on va vers l'autre. Ça me paraît aussi une dimension intéressante.
C'est Pierre qui a annoncé ça.
Oui, c'est Pierre qui annonce.
Donc Pierre a dit « N'ayez pas peur, l'Esprit est là ».
Oui.
Et donc ce qu'il a dit a été traduit au fur et à mesure.
C'est pas tout à fait ça. L'annonce, c'est « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». Il est vivant.
Il est
c'était
vivant.
Ça, c'était ça l'annonce. L'annonce, c'était que Jésus crucifié est vivant et que donc il vit et il vit par la puissance de Dieu. Et évidemment, alors que On avait crucifié le Christ pour en finir avec cette secte chrétienne. Mmh. Évidemment, là, c'est... Eh bien, non, justement, c'est le début. C'est... On quitte la période du Christ pour entrer dans la période de l'Église, si on peut dire. La Pentecôte, alors, c'est le...
Pour aller au-delà d'un fait, parce que quand on fait... Moi, j'ai été catéchiste, et souvent, les enfants disent « Ah, c'était à quelle date ?» Parce que l'ascension, la résurrection, ascension, Pentecôte, on en fait un fait, quelque chose de factuel. Et il y a un prêtre qui nous a dit, un théologien à l'Institut catholique, qui nous disait « Mais en fin de compte, dans notre foi, chacun, on vit des pentecôtes. D'un seul coup, on passe de la position de quelqu'un qui cherche,
qui hésite,
à ce moment où on dit, mais si, c'est vrai, il est là, il est ressuscité, il est parmi nous, et on l'annonce. On devient des missionnaires. Oui. C'est pas quelque chose de seulement de factuel, c'est un état
de conversion qui vous amène, voilà, à témoigner.
Et je trouve ça intéressant parce que on aurait tendance à dire, bon, bah, telle date, c'est ça, parce qu'on met sur le calendrier, telle date, c'est ça. Alors Jésus, il y a un enfant qui m'a dit l'autre jour, alors c'est vrai, c'était à telle date qu'il est monté au ciel. Je lui dis, alors je lui ai expliqué ce que je vous dis.
Il n'est pas de journaliste, on ne savait pas.
Voilà. Religieusement, comment on célèbre ça?
Une messe particulière,
avec une bénédiction solennelle.
Et chez les protestants?
Tous les jours, donc d'après ce que vous disiez, tous les jours, on est à la Pentecôte. Le croyant est à la Pentecôte. Oui. Alors ça me rappelle, deux secondes, qu'on dit aussi que toutes les âmes juives qui sont nées depuis la révélation, la mienne aussi actuellement, eh bien on a participé à la révélation au moment du Sinaï. Donc on est...
Tout à fait, je trouve ça...
On a tous été témoins de la chose.
Voilà, on est dans un mouvement, tous.
Et chez les protestants, c'est la même chose. C'est la montée au ciel, la résurrection de Jésus, et qui reviendra. Donc c'est effectivement le message de révélation. Et puis, il y a effectivement un culte particulier et... Beaucoup de jeunes qui font leur confirmation ce jour-là, oui.
Ça renvoie à la confirmation qui est le sacrement où on reçoit l'Esprit Saint.
Ils ont reçu un enseignement sur plusieurs années, et ce jour-là, ils décident même de confirmer leur foi, de s'engager dans l'Église, de porter la bonne parole, etc. Mais juste une petite précision. Pour les protestants, Jésus est ressuscité. Donc, dans les temples protestants, il peut y avoir une croix, une simple croix, mais jamais de représentation de Jésus crucifié. Parce que pour les protestants, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Donc, il n'a pas à être représenté sur une croix.
Et le sens de la Pentecôte, c'est le fait de la conversion qui amène chacun à être témoin du Christ. Et témoin de l'amour du Christ pour lui-même et aussi pour les autres.
Donc les images du Christ que vous avez, c'est pas sur, il n'est pas crucifié.
Il n'y a jamais d'image.
Il n'y a pas d'image du Christ du tout.
Du tout. Mais c'est un petit peu comme.
C'est très logique.
C'est très biblique. Ouais. C'est très biblique de ne pas de mettre des décorations. Les temples sont très épurés. Alors, quelquefois, comme au temple de Mars Osseux, il y a des versets bibliques sur les murs, mais chez les protestants, c'est la Bible. La vérité est dans la Bible. Donc, dans tout temple, la première chose que l'on voit, c'est une Bible exposée sur un pupitre. Alors, il peut y avoir une croix, etc., autre chose, mais c'est la Bible.
C'est voilà. Donc dans la parole la que s'enracine la foi dans la Bible. Au Christ. Voilà. Eh bien, notre émission s'achève. Merci de nous avoir partagé cette signification du Ramadan, de la Pentecôte, chez les Juifs, chez les chrétiens. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir. Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter. Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.